Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons ouvrir un précieux livre. Nous allons entendre deux textes. Le premier dans Marc 14, nous lirons les versets 32 à 42. Et le deuxième texte sera dans 1 Thessaloniciens 5.
Alors, première lecture dans le livre de Marc, chapitre 14. La prière Gethsémané. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici ce qui me livre s'approche. » Et une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Les versets 6 à 11. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et l'amour, en ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Jusqu'ici notre lecture.
Celui qui n'a pas confiance en quelqu'un aura de la peine à le croire, ou difficilement arrivera à le croire, particulièrement lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas faciles à accepter. Eh bien, en fait, il n'est pas possible de faire confiance en Dieu si son esprit n'agit dans nos cœurs. Et nous comptons encore sur lui ce matin afin que l'esprit de Dieu agisse dans nos cœurs de manière à ce que nous ayons une confiance totale, non pas en moi, mais en Dieu et dans sa parole. Et je prie que le Seigneur m'aide à être fidèle dans la transmission de cette parole afin que nous puissions être édifiés. Quel privilège d'être en possession de l'Écriture, la parole de Dieu, qui est la révélation en fait d'un témoin présent. Vous savez que tout ce qui est dit dans la Bible est dit par un témoin présent, puisque l'auteur ultime de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il est présent pour tout ce qui a été dit. Il n'y a pas une chose où le témoin n'était pas là. Et nous avons vu justement vendredi que pour parler d'un événement passé, il est bien plus fiable d'avoir un témoignage d'une personne qui ne dit que la vérité, qui était présent, que des tentatives de reconstruire le passé en nous basant sur l'observation d'indices observables aujourd'hui. Nous avons une parole écrite par un témoin présent. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, est l'auteur ultime de toute la Bible. Nous avons donc un document fiable. De plus, Marc, qui a écrit cet évangile selon Marc, inspiré du Saint-Esprit, est aussi un transmetteur d'un témoin privilégié, comme nous l'avons déjà un petit peu vu, aux côtés de Jésus, puisque vraisemblablement il raconte ce qu'il a entendu de Pierre, en grande partie. Et la dernière nuit avec Jésus a marqué tous les disciples. Ils ont tellement été marqués par cette dernière nuit que, en fait, une grande partie des évangiles parle de cette dernière nuit et de tout l'enseignement que Jésus a donné lors de cette dernière nuit. Et Jésus a pris du temps avec ses disciples de prendre le repas de la Pâque. Et lors de la première Pâque, ça je trouve assez intéressant de voir quand même, lors de la première Pâque, on voit ça dans Exode 12, verset 2, il est dit ceci: « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper, qu'il versera le sang sur le linteau, qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Mais que fait Jésus à la fin du repas? Il sort. Jésus ne reste pas dans la maison jusqu'au matin. Il va faire face quelque part au destructeur. Comprenez déjà, en pensant à ce qui s'est passé en Égypte, que ce n'est pas Satan qui a tué les premiers-nés en Égypte. C'est l'Éternel. Nous y reviendrons. Donc, étant sorti du lieu du repas, il va dans les environs du mont des Oliviers, où le jour précédent il avait parlé de la fin de Jérusalem et du jour et de l'heure de son retour. Il parlait du jour, il parlait de l'heure, il n'a pas donné le jour exact et l'heure, hein, on se comprend. Mais il parlait de ces termes-là. Et là, il a averti les disciples, en montant sur ce mont des Oliviers, qu'ils allaient tous le laisser tomber. Alors là, c'est la stupeur. Ils disent, non, mais c'est pas vrai. Ils affirment tous le contraire. Nous te resterons fidèles. Pierre va jusqu'à même dire, on l'a vu la dernière fois, quand tout serait une occasion de chute pour toi, moi, pas. Vous vous souvenez peut-être. C'était quelque chose de très fort et c'est ce qui vient de se passer. Et là, Jésus les amène dans un jardin qu'ils connaissaient. C'est le lieu du pressoir à huile. En fait, Gethsémani, ça veut dire pressoir à huile, c'est pour ça que je peux vous dire cela. C'est le lieu du pressoir à huile. C'est où nous sommes aujourd'hui dans le texte de la parole de Dieu que nous avons lu et que nous allons étudier ensemble. Dans ce jardin, nous allons entrer un peu plus dans l'intimité de Jésus-Christ, quelque part dans ses sentiments de Jésus-Christ. Peut-être avez-vous vu, en lisant le texte, quelques éléments qui décrivent en fait ce qu'il est en train de vivre, ses sentiments profonds. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes, dans Marc 14, comme ça vous pouvez y revenir. Il y a le verset 33, où il est parlé d'effroi ou de frayeur, suivant les traductions, ou d'angoisse. Quelque chose de fort quand même. Il est parlé au verset 34 de tristesse jusqu'à la mort. Encore plus loin, on voit les paroles de Jésus qui s'adresse à son Père, qui souligne son grand trouble. « Éloigne de moi !» Voilà la raison qui m'a poussé en fait à intituler cette prédication « Jésus face à l'angoisse. » Jésus face à l'angoisse. Et nous allons chercher à mieux comprendre comment Jésus a vécu cette angoisse. Et notre premier point s'intitulera « La façon de vivre l'angoisse de Jésus ». C'est notre premier point, la façon de vivre l'angoisse de Jésus. Ensuite, nous réfléchirons à ce qui amène Jésus à être angoissé. Dans notre deuxième point, le titre sera « La raison de l'angoisse de Jésus ». Et ensuite, pour terminer, nous nous émerveillerons et nous nous laisserons modeler par l'attitude de Jésus qui n'est pas centrée sur lui-même. Et le troisième point sera « La compassion dans l'angoisse de Jésus ». Mais commençons par le premier point. Et si j'ai un peu titillé votre curiosité pour le troisième point, c'est très bien. Donc vous resterez avec moi jusqu'au dernier, comme ça. Premier point, la façon de vivre l'angoisse de Jésus. Relisons quelques versets de ce chapitre 14, versets 32 à 36. Ils allèrent ensuite dans le lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commençait à être saisi d'effroi et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. Puis il s'avança un peu, se jeta à terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus commence à être saisi de peur. Il sent venir ce moment qu'il redoute le plus au monde. C'est quelque chose, en fait, qu'il n'a jamais vécu jusqu'ici. Jésus va vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu jusqu'ici. C'est quelque chose d'horrible, de traumatisant, et il commence déjà à en sentir les douleurs. Alors, quel est le premier réflexe de Jésus? Est-ce que vous avez remarqué quel est le premier réflexe de Jésus? Regardez avec moi au verset 32 déjà. Il dit à ses disciples de s'asseoir pendant qu'il allait prier. C'est son premier réflexe. Il met ses disciples en attente, on pourrait dire, et il va prier. Premier réflexe. C'est un réflexe qu'il a toujours eu, en fait. Vous pouvez prendre tous les évangiles, vous allez regarder, et c'est un réflexe que Jésus avait. Cette notion de prière, de s'adresser à son Père. Donc là, il met tous ses disciples dans le début du jardin Gethsémané, dit « je vais prier », puis il en prend trois avec lui. Pierre, Jacques et Jean, qu'il prend avec lui. Et là, à eux, il leur exprime un peu plus profondément ses sentiments. Il leur dit « mon âme », ils ont pu voir, hein, puisque c'est écrit, ils ont pu voir qu'il était saisi d'angoisse et d'effroi, et il leur dit « mon âme est triste jusqu'à la mort ». En fait, il leur partage un sujet de prière pressant ici, urgent, hein, et il leur demande de veiller. Dans le cadre privé de Gethsémané, Jésus dévoile la profondeur de son trouble. Il en parle avec des personnes qui lui sont le plus proches. Vous ne le verrez pas sur la croix parler de ces choses-là. Il dira aussi des choses. Mais il est dans un cadre avec ceux qui sont le plus proches. Jésus est torturé par ses émotions. Et avoir des émotions telles que ceux que Jésus a vécues ici dans le jardin de Gethsémané, ce n'est pas péché en fait. Être angoissé, effrayé, d'avoir une tristesse jusqu'à la mort, ce n'est pas péché. Jésus est saint, il est parfait, il n'a jamais péché, et ici non plus. Et parce qu'il n'a jamais péché, ça ne l'empêche pas ici d'être dans la terreur, dans l'épouvante, une très grande frayeur, un grand trouble, une grande détresse. Il va même jusqu'à dire que son âme est triste jusqu'à la mort. Hein, on pourrait dire le stress, voire la panique s'empare de lui. Nous allons voir la raison. Ça va nous aider à le comprendre, évidemment, qui l'a poussé dans ses retranchements. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on comprenne déjà simplement que Jésus a souffert émotionnellement comme personne ne le vivra jamais. Quelqu'un a dit que dans notre société, nous observons deux tendances. Généralement, deux tendances dans notre société. La première, c'est d'ignorer nos sentiments, les ignorer. Soit en les reniant dans un déni, ou soit en les combattant sans les écouter. C'est l'ignorance des sentiments. Ou la deuxième tendance, c'est de prendre en compte les émotions comme étant la vérité que nous devons suivre dans nos vies. Si j'ai une émotion, c'est que c'est la vérité que je dois le suivre. Voilà deux tendances qui sont malheureusement souvent vécues. Jésus n'a vécu aucune des deux. Si Jésus avait ignoré ses sentiments en les reniant ou en les combattant, il se serait trompé d'ennemi. Ses sentiments d'effroi, d'angoisse dans une situation comme la sienne sont légitimes, normales. Il n'y a pas besoin de les renier ni de les combattre. Si Jésus avait pris ses émotions comme étant la vérité à suivre, il n'aurait pas suivi la volonté de son Père, parce que ses sentiments, dans toute leur force, le poussaient à plutôt lui demander d'éloigner cette heure, d'éloigner cette coupe. Qu'a fait Jésus de ses sentiments? Regardons le verset 36. Le verset 36, c'est une clé. C'est sa prière. Il s'approche de Dieu. Il dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En fait, il commence à s'adresser au Père avec un terme affectueux. Ce qu'aucun juif ne faisait à l'époque. Personne n'appelait Dieu Abba. C'est comme papa, c'est un langage très affectueux. Ça montre sa proximité, ça montre sa confiance qu'il a en son Père. Il le connaît comme étant le Tout-Puissant. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et personne ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté. Pour Jésus, c'est clair, même dans l'angoisse la plus profonde. L'angoisse de Jésus ne lui a pas enlevé la raison, ni la compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il est capable. L'angoisse de Jésus ne lui a pas enlevé la raison, ni sa compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il est capable. C'est pour nous, en fait, un encouragement à faire de même. En fait, remettre en question qui est Dieu et ce qu'il a dit sont les tentations favorites de notre ennemi qu'il nous susurre. A-t-il réellement dit ? Est-il vraiment bon ? Mais non, il veut t'empêcher de vivre quelque chose de bon. Puis c'est pas tout à fait ça qui est écrit, tu sais. Enfin voilà, je vais pas vous faire l'explication, vous commencez. C'est depuis le début, depuis la chute. Son sentiment de terreur pousse Jésus, son sentiment de terreur face à ce qu'il va vivre, on y arrive, hein, tout bientôt, demande de l'éloigner, cette source de terreur. Éloigne de moi. Il exprime ses sentiments à Dieu, comme nous pouvons aussi le voir dans bien des psaumes. On peut les exprimer. Et même, je dirais, il faut les exprimer, sinon ils vont exploser. À un moment donné, on explose, on a besoin. Hein, souvent, même dans des thérapies actuelles, il faut parler. Ok, à qui ? À Dieu. Et c'est vrai, c'est bien, c'est important. On a besoin de s'exprimer. À Dieu. Il nous connaît, il nous comprend. Et Jésus est conscient que ce ne sont pas ses sentiments qui doivent le dominer. Ça, c'est un élément important. Jésus est conscient que ce ne sont pas ses sentiments qui doivent le dominer. Pourquoi je peux vous dire ça ? Parce qu'il dit dans le texte, « Toutefois pas ce que je veux. » Parce qu'en fait, ce qu'il veut à ce moment-là est dominé par ses sentiments. Et on le voit dans notre vie. Des fois, on veut quelque chose, c'est nos sentiments qui nous poussent. Puis il dit, « Mais pas ce que je veux. » Mais il veut l'accomplissement de la volonté de son Père. Mais ce que tu veux. Jésus veut par-dessus tout vivre selon la volonté de Dieu, même dans l'angoisse, dans le stress, dans la plus grande souffrance morale que personne n'a jamais vécue. Et le fait de savoir que notre Seigneur a vécu ce temps, dans cette profondeur, est un encouragement. Il y a un frère parmi nous, vous le reconnaîtrez, qui a passé par un temps de grande douleur. Il sentait comme des couteaux dans les yeux, ne pouvant plus voir. Et dans ce temps affreux, il m'a dit qu'il s'est senti plus proche de notre Seigneur et de ses souffrances qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut pas imaginer. Et en pensant à Gethsémané, justement, il a été en fait rassuré, encouragé. Jésus, en devenant humain, a vécu de terribles épreuves, la terrible épreuve de la frayeur, de l'angoisse, comme personne ne les a vécues et ne les vivra jamais. Il l'a fait en annonçant à ses disciples qu'il allait prier, en demandant à ses disciples de veiller, en adressant au Père une prière pour être épargné de l'horreur qu'il voyait arriver, préférant suivre la volonté de son Père, plutôt que ce qu'il aurait voulu désirer de son corps, si vous voulez. Et Luc le souligne, hein, je ne vais pas maintenant aller dans tout ce que Luc dit par rapport à ce qu'il a souffert. Mais qu'est-ce qui angoissait tellement Jésus ? Pourquoi ses émotions étaient-elles si fortes ? C'est notre deuxième point, la raison de l'angoisse de Jésus. Et Jésus donne deux mots dans le texte. En fait, il n'y a que deux mots pour savoir qu'est-ce qui l'angoisse. Je ne sais pas si vous les avez reconnus. Verset 35. Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Verset suivant. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Deux mots pour parler de la même chose, pour parler de l'innommable, de l'horreur absolue pour celui qui était parfait, saint, l'agneau sans aucun défaut. Il s'agit de l'heure et de la coupe. Et là, il faut bien comprendre quelque chose ici. C'est que Satan veut à tout prix que Jésus n'aille pas à la croix. Des fois, il y a des incompréhensions dans ce sujet-là. Il faut bien comprendre que Satan veut à tout prix qu'il n'aille pas à la croix, qu'il ne boive pas la coupe de colère de Dieu. Jésus est saint. On pourrait dire ici qu'il est tenté de rester saint. Il est tenté de, quelque part, refuser qu'il soit fait péché. Parce qu'en restant saint, la colère de Dieu ne serait pas déversée sur lui. Vous rendez-vous compte de l'horreur de devoir porter des milliards de péchés? Un poids écrasant au-delà de toute imagination. Parfois, dans les camps d'enfants, il m'arrivait de faire porter des pierres ou des bouteilles d'eau. Je fais attention à leur dos, hein, je dis comme en passant, mais quand même quelque chose de lourd, que ça soit pas juste facile, hein, pendant un certain temps, pour se rendre compte du poids des péchés non pardonnés. Jésus a porté tous les péchés de ceux qui se repentent et se tourneront encore vers lui. Un poids immense. Si nous venons de parler du poids du péché, nous pourrions encore parler de son odeur nauséabonde. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir senti une fois une odeur? Ouais, j'utilise le terme comme ça on comprend. Dégueulasse. Vraiment pas bon. Vous vous rappelez d'une odeur? Eh bien ça, c'est l'odeur d'un seul péché. Donc imagine des millions de fois cette odeur, amplifiée des millions de fois. On pourrait même encore parler de l'abattement que provoque le péché, la culpabilité, les regrets, les douleurs causées par nos fautes. Jésus était face à ce moment où il allait devoir supporter tout cela. Et quand je dis l'horreur absolue, ce n'est qu'une pâle image. Mais en préparant cette prédication, je me suis rendu compte que toute cette souffrance immense des conséquences du péché n'était en fait encore rien à côté de la coupe qu'il allait boire. Le jugement du Dieu juste et parfaitement saint allait faire payer pour ses péchés qu'il allait porter. On pourrait dire que Jésus a non seulement porté nos péchés, il a subi la juste colère de Dieu pour ses péchés. Parce que nous, on arrive à se rendre compte ce que c'est de... On pêche et ça nous fait souffrir qu'on pêche. Mais on n'a jamais, jamais vécu la colère de Dieu en lien avec ses péchés. Et lui, il l'a vécu. Et il était face à cela dans ce jardin. Il le savait. Si un des élus méritait 100 coups de fouet, Jésus les a subis. Et cela pour chacun des myriades d'humains que nous voyons dans Apocalypse 5, 11. Des myriades. Et comme ce n'est pas Satan qui a fait périr les aînés en Égypte lors de la première Pâque, ce n'est pas non plus Satan qui va déverser sa colère sur Jésus. C'est Dieu lui-même. Et cela rendra encore beaucoup plus insupportable cette situation pour Jésus. Jésus ne va pas faire face à Satan sur la croix, mais à Dieu. C'est compris. C'est très fort ça. C'est souvent mal compris justement. C'est Dieu lui-même. Et cela rend vraiment insupportable pour Jésus. Il ne fait pas face à Satan, c'est déjà difficile, hein? Il est terrible. Il a déjà eu affaire à lui d'ailleurs. Non, à Dieu. Comme en passant, hein, d'ailleurs, celui qui ne se repent pas ne va pas être maltraité par Satan en enfer ou les démons. Ce n'est pas démons et Satan qui va le maltraiter en enfer, hein, ça c'est faux, c'est de l'hérésie. Non, l'enfer, c'est d'abord l'endroit du jugement et de souffrance de Satan lui-même et des démons. Et c'est Dieu qui déverse sa coupe de colère, ce qui rend la souffrance encore plus insupportable, parce qu'elle est entièrement méritée et totalement juste. Et Jésus, âgé de ses manées, est parfaitement conscient que c'est Dieu lui-même qui va le juger, car il va prendre la place de milliards de pécheurs. Et Jésus est tenté par le diable de ne pas prendre le péché sur lui, de rester saint, on pourrait dire, hein, de ne pas subir l'abandon de Dieu, de ne pas subir les coups, les souffrances visibles qui s'étaient représentées par ce qu'on voit sur la croix, mais qui représentait quelque chose d'invisible qui était beaucoup plus grand. Les souffrances que Jésus a eues avant la croix et sur la croix sont énormes, c'est vrai. Mais en fait, c'est qu'une image de la souffrance bien plus grande que nous ne voyons pas. Un peu comme le baptême. Vous savez, quand on fait un baptême, on voit quelqu'un qui va dans l'eau, qui ressort, c'est magnifique, il y a une image, etc. Mais en fait, c'est une image de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, une transformation éternelle qui est manifestée par un élément physique. Eh bien, l'élément physique que Jésus a subi à la croix, qui était visible, représentait quelque chose qui était beaucoup plus grand de manière invisible. Et Jésus était au courant de ce qui allait lui arriver. Il était tenté de se détourner de cette coupe. Quand je vous dis qu'il était tenté de ne pas rester saint, ne me comprenez pas mal. Jésus n'a jamais péché. C'était le fait d'accepter que ce poids lui soit mis sur lui. Parce que Jésus n'a pas subi cela. Il l'a choisi. Jésus était au courant de cela. Mais au lieu de s'en détourner, en fait, il exprime à son cœur ce que ses sentiments, ses émotions le poussent de toute leur force, de toute sa sueur à faire. Et il ne fuit pas, il dit « éloigne de moi ». Il dit « mais c'est ça que je désire le plus profond de toute ma sueur, que ça s'éloigne de moi ». Mais lui, il ne fuit pas, il reste là, devant son Père. C'est ce que son corps d'humanité crie de toutes ses forces, et les forces qu'il arrive à rassembler. Voilà pourquoi la tension, l'épreuve, le traumatisme est si grand ici. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu faire face à cette tentation. Il n'aurait pas pu. Satan a tout tenté pour l'écarter de la croix. Il a tout tenté, je vous assure. Parce qu'il savait que c'était sa défaite. Il a tout tenté. Il a voulu le tuer dès sa naissance. Il aurait voulu être le juge de Jésus. C'est lui qui voulait être le juge de Jésus, en fait. Il voulait qu'il refuse de boire la coupe de la colère de Dieu. Et maintenant, donc là on vient à notre époque, hein, que Jésus l'a bu sur la croix, qu'il est ressuscité, ben vous savez ce qui se passe? Satan, il tente de faire croire que Jésus n'a jamais bu la coupe. Des faux enseignements indiquent que Dieu aurait ultimement mis... C'est pas Dieu qui aurait mis Jésus à mort, c'est Satan. Alors oui, la cause seconde sont des hommes qui ont tué Jésus-Christ, poussés par la haine du diable, c'est vrai, qui est entré en eux pour le livrer. Mais si la foule et les chefs religieux ont fait mourir Jésus, comme le dit Pierre, c'est Dieu comme cause première qui accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance. Et ça, c'est très clairement dit dans le livre des Actes, hein. Regardez dans Acte 3, et je vous dis simplement les versets 15, 17 et 18, qui dit ceci, donc c'est Pierre qui parle à la foule, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Mais là, c'est clair, c'est la foule, c'est les chefs qui ont mis Jésus à mort. Verset 18, « Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. » Donc, qu'est-ce qui a fait que Jésus soit si angoissé, si effrayé, que son âme était triste jusqu'à la mort, et peut-être même qu'il aurait succombé à Gethsémané si un ange n'était pas venu le fortifier? C'est lui qui le dit. Tellement c'était fort. Mais qu'est-ce qui était la raison de son angoisse? Le fait qu'il allait porter nos péchés? C'est vrai que cela serait déjà assez terrible, hein, et ça pourrait déjà nous mettre dans un état autant fort. Mais la raison de son angoisse et de sa peur était la colère de Dieu qui allait s'abattre sur lui. Une colère éternelle que lui seul, un être éternel, pouvait expier pour que nous soyons sauvés. Donc quelle était la raison de son angoisse? La raison de son angoisse et de sa peur était la colère de Dieu qui allait s'abattre sur lui, une colère éternelle que lui seul, un être éternel, pouvait expier pour que nous soyons sauvés. Romains 2, 3 à 5 nous dit ceci. C'est bien, allons dans nos Bibles, gardez un petit doigt dans Marc 14, et puis on va dans Romains 2. C'est quelques livres plus loin. Romains 2, verset 3. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Au jour du jugement, celui qui est en Christ ne subira pas la colère de Dieu, car la colère a été déversée sur Jésus-Christ. Justice a été faite, le prix a été payé. C'est ce prix à payer qui a mis Jésus dans une si grande angoisse. Ainsi, lorsque nous nous mettons sous la protection de Jésus-Christ en confessant nos péchés, en croyant en son œuvre de salut, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous n'avons plus à vivre cette angoisse de savoir que la colère de Dieu va être déversée sur nous. C'est une angoisse terrible, et on le voit à Gethsémané. Jésus l'a vécu à notre place. On arrive au troisième point. Et Jésus, par sa manière de vivre l'angoisse, nous enseigne encore un autre aspect important ici. La compassion dans l'angoisse de Jésus. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué ici. Marc 14, verset 37. Il revint vers les disciples. Ça, c'est juste après cette prière qui est très angoissée. Hein. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure. » Vous vous rappelez, je ne peux pas dire combien de temps ça peut faire, une demi-heure avant. « Si tous les autres te laissent, moi jamais. » Il a pris Pierre avec lui. Hein. Il a aussi pris Jacques et Jean. Jacques et Jean, il n'y a pas longtemps avant, ils disaient, « Nous, on aimerait être dans le royaume à côté de toi, là. Pouvez-vous boire la coupe ?»« Bien sûr. » N'a pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc Jésus connaissait l'orgueil de ces trois. Il les a pris avec, pas pour leur faire du mal. Moi, je suis sûr qu'ils l'ont compris par la suite, après la résurrection de Christ. Et j'espère que moi-même et nous-mêmes, nous allons comprendre certains éléments ici. Continue verset 39. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. L'angoisse. Et ensuite, il revint encore et les trouva endormis. Car leurs yeux étaient appesantis, ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » C'en est fait. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Jésus est dans une angoisse extrême. Nous le comprenons bien, maintenant qu'on saisit un peu mieux les raisons qui sont derrière, je l'espère. Mais cette angoisse n'empêche pas Jésus à continuer à se préoccuper de ses disciples. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Ceux-là même pour qui il va boire la coupe du jugement de Dieu. C'est même pas des gentils pour qui... Non, c'est ceux pour qui il va boire cette coupe. Il continue à se préoccuper de ses disciples, de ceux-là même. Jésus n'a jamais été égoïste. Il n'a jamais commis aucun péché, même dans la plus profonde angoisse. Son amour a toujours triomphé. Toujours. Et si quelqu'un aurait pu utiliser la gravité, la profondeur de son angoisse pour excuser son manque de tact, son manque de bienveillance, son manque de patience, le repli sur lui-même délaissant les autres, eh bien c'était bien Jésus-Christ. Je mérite qu'on me laisse tranquille. Vous ne vous rendez pas compte ce que je suis en train de souffrir. Mais Jésus, alors qu'il est en proie à une lutte quasi intenable, à trois reprises revient vers ses disciples. Est-ce que c'est pour venir chercher du réconfort de leur part ? A-t-il trouvé du réconfort auprès de ses disciples ? Plutôt de la frustration, si on va aller dans les émotions. Je ne crois pas qu'il ait venu chercher du réconfort. Jésus est revenu vers ses disciples pour être un soutien pour eux. Il est revenu vers ses disciples pour être un soutien pour eux et leur donner le meilleur conseil que personne ne saura donner lorsque nous nous trouvons devant la tentation. Si vous cherchez le meilleur conseil à avoir devant la tentation, revenez dans ce texte de Marc 14. Et que l'Éternel me donne de plus en plus l'utiliser lorsque je suis tenté de diverses manières, que ce soit par l'impatience, l'orgueil, le mécontentement et tant d'autres choses, que je puisse me rappeler de Marc 14, 38. Veillez et priez. Afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est disposé, est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Le réflexe de prier. Je peux témoigner que les fois où j'ai eu ce réflexe, Dieu m'a gardé. Mais j'ai malheureusement pas toujours eu ce réflexe. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus lui-même était en lutte et que fait-il? Eh bien, pas autre chose. Il se rendait bien compte que sa chair était faible. Il avait lui-même besoin de veiller et prier. Sinon, il n'allait pas accepter la coupe qu'il allait boire pour nous en délivrer. Jésus manifeste de la patience envers ses disciples. Il ne les renvoie pas. Il ne dit pas « fired ». Vous avez déjà entendu ça? Un peu moins, c'est un petit peu différent ici dans nos latitudes, mais dans, quoique c'est en train de venir ici. Dans d'autres latitudes, vous arrivez au travail, ça ne se passe pas bien, on vous dit « renvoyez ». Fini. Dans la seconde suivante, c'est fini, vous n'avez plus de travail. Jésus n'a pas fait ça avec ses disciples. Il a été patient. Il ne les rabaisse pas. S'il dit à Pierre qu'il n'a pas pu veiller, ce n'est pas qu'il veut le rabaisser. Ce que Pierre, il vient de dire « moi, pas de problème ». Dit Pierre, je fais un petit souvenir pour l'aider. Et après, qu'est-ce qu'il dit ? Veillez, priez. Il ne dit pas « t'es nul, Pierre ». On ne voit pas ça chez Jésus. Veillez, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Il ne les laisse pas sans rien dire. Il leur dit quelque chose. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Malgré une souffrance et une épreuve sans commune mesure, Jésus continue à prendre soin de ses disciples. Il les avertit même qu'il va être livré. Il leur dit après, il arrive, c'est l'heure. Il les avertit pour qu'ils ne soient pas totalement pris au dépourvu. Jésus pense même à ses disciples. Il aurait pu penser qu'à lui, les disciples, ils sont là, en plus ils dorment, voilà, au moins ils seront réveillés. Non, il n'est pas comme ça. Il les avertit, il prend soin. Vous vous souvenez peut-être d'une illustration que je vous avais donnée un jour, qui était un acte de bienveillance au-delà de ce qui semblait normal. C'était un groupe de prisonniers américains, de prisonniers de japonais, qui avaient croisé un wagon de blessés japonais. Et en fait, ces hommes qui étaient prisonniers étaient allés prendre soin des blessés ennemis. Quelque chose qui était inimaginable. Quelque part, eux-mêmes étaient torturés dans leur situation et ils sont allés même vers leur propre ennemi. Et ça me fait vraiment penser à Jésus qui, de manière encore beaucoup plus, bien sûr, violente, torturé par la colère qui va lui tomber dessus, prend encore soin de ceux qui méritaient cette colère. Alors si Jésus a pris soin de ses disciples alors qu'il vivait une grande épreuve, la plus grande épreuve de toute l'histoire de l'humanité, à combien plus forte raison maintenant qu'il est ressuscité, il prend soin des siens. Ainsi, Jésus a pris soin de ses disciples alors qu'il vivait la plus grande épreuve de toute l'histoire de l'humanité. À combien plus forte raison, maintenant qu'il est ressuscité, il prend soin des siens. C'est un puissant encouragement, mes chers frères et sœurs. C'est bon de prendre cet encouragement, de s'en souvenir. Nous arrivons à la conclusion. À Gethsémané, nous arrivons dans un lieu où on pourrait dire il vaut mieux enlever nos sandales, nos chaussures et juste adorer. Adorer ce Dieu qui se donne comme il n'est pas possible de s'imaginer. Jésus fait face à l'imminence de la colère de Dieu qui va être déversée sur lui. Cette colère, je la mérite. Tout pécheur la mérite. Mais Jésus n'a pas cédé à la tentation de ne pas accepter de prendre sur lui ce péché. Il aurait pu le faire grâce à une résistance. Dire non, je ne le veux pas. Non, il est resté fidèle. On pourrait dire une résistance héroïque et divine à cette tentation de ne pas accomplir le plan de Dieu. Il l'a vaincu. Je peux me confier en lui. Je peux me repentir de mes péchés. Je serai pardonné. Quelqu'un m'a dit un jour, il faudra arrêter de parler de péché. Jésus a tout payé. Pourquoi encore parler de péché? Or, moi, je réponds, oui. Lorsqu'il n'y aura plus de péché, on n'en parlera plus. Bien sûr. Mais Jésus lui-même a dit, il n'est pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Ainsi, étant conscients de notre péché, qui s'accroche encore si souvent à nous, nous nous souvenons de Gethsémané, où Jésus a vécu l'angoisse face au jugement que je ne vivrai jamais. Il a été tenté de ne pas subir le jugement de Dieu à ma place, mais il a résisté, une tentation que je n'aurai jamais. Et même dans son angoisse, il n'a pas oublié ses disciples. Il ne m'oubliera jamais. N'hésitons donc pas à suivre son conseil qu'il a lui-même mis en pratique. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est bien tremblant que nous venons devant toi. Parce que tu nous as fait entrer un peu dans l'intimité de Christ, dans cette lutte extraordinaire qu'il a vécue. Nous ne sommes pas dignes d'un roi tel que lui. Éternel, nous sommes tellement souvent comme ses disciples qu'il trouve endormi à 3 reprises. Nous te demandons pardon, Père. Pardon de ne pas encore assez utiliser cet excellent conseil que notre Seigneur nous donne et qu'il a lui-même vécu. Et j'aimerais dans un même temps, Seigneur, notre Dieu, simplement te louer, t'adorer, te remercier d'avoir tout accompli. Te remercier que Christ a bu cette coupe de la colère infernale, horrible, que je mérite, afin que chacun qui se tourne vers toi est délivré. Seigneur, j'aimerais vraiment te prier qu'il n'y ait personne ici qui soit dans la situation où la coupe sera déversée sur lui ou sur elle. Je te supplie, Père, que chacun puisse saisir cette œuvre que tu as faite pour nous, puisse se tourner vers Christ et dire « Je suis pécheur, je le reconnais et je te suis tellement reconnaissant d'avoir pris sur toi toutes mes transgressions. » Nous voulons, Seigneur, aussi te louer, t'adorer, te remercier, parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. Il est vivant. Et le salut n'est pas juste une ardoise effacée. Le salut, c'est Christ à nos côtés. Christ en nous par l'Esprit. Christ intercédant auprès de toi pour nous. C'est une grâce. Sois loué dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.